Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Les libertés démocratiques ont reflué dans près de 70% des pays du monde en 2020 à cause des restrictions provoquées par la lutte contre la pandémie, selon une étude du groupe britannique The Economist. Et c'est François qui est avec nous, qui ne partage pas vraiment cet avis.
Bon, je veux dire, je peux pas le partager parce qu'il faut remettre ça encore une fois dans le contexte. On est dans un contexte tout à fait particulier, qui est un contexte pandémique, où nécessairement ce qui doit primer, c'est la protection de la population, la santé publique, surtout dans un pays où la santé publique a un coût et où tout est quasiment accessible à tout le monde sans payer quoi que ce soit. Donc il faut absolument protéger nos hôpitaux. Et si contribuer à protéger nos hôpitaux et protéger la population publique nous amène à ne plus sortir après 18 heures ou à devoir porter un masque, eh bien faisons-le. Enfin, je veux dire, c'est temporaire. Moi qui milite dans une organisation syndicale, on a quand même pu travailler, avoir des négociations. La visioconférence fait en sorte qu'on continue à mener des négociations et qu'on continue à pouvoir discuter entre nous et avec nos directions. Voilà. Alors après, on peut considérer qu'effectivement, le temps de cette pandémie, nos libertés ont été quelque peu freinées. Effectivement, maintenant, à quelle position nous sommes-nous? Je crois qu'on doit être placé 24e, avec une note aux environs de 8. Et si on est 24e derrière les grandes démocraties nord-européennes ou européennes, voire autres, je veux dire, la situation est quand même pas aussi catastrophique qu'on veut bien nous le dire malgré tout. Quoi. Il faut
Alors François, ce qui est intéressant dans votre position qui est très articulée et très bien argumentée, c'est peut-être de la confronter à Raphaël, qui est prof de droit dans le Puy de Dôme. Bonjour Raphaël, il semble que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde que François.
Oui, bonjour Pascal. Alors moi, je vais dire qu'il y a deux positions. On peut avoir deux positions. D'abord, si on prend juste les aspects théoriques, théorie pure, effectivement, un masque, un gel, une autorisation de sortir, un confinement sont des atteintes aux libertés. Théoriquement, quand on prend nos grandes libertés, telles qu'elles sont définies dans la déclaration de 1789, tout ce qu'on nous impose, c'est une atteinte à nos libertés. Je dis bien quelque chose de théorique. J'ai été un de ceux qui, sur votre antenne, avait parlé, d'ailleurs, vous a rappelé, de dictature sanitaire et ça ne vous avait pas plu. Alors nous sommes effectivement dans une période où il y a une pandémie. Alors les pouvoirs publics, ceux qui nous gouvernent, sont obligés de prendre un certain nombre de mesures par le biais d'ordonnances, d'état d'urgence, etc. Alors s'il y avait eu de telles atteintes que ça, il y aurait eu des censures du Conseil constitutionnel. À ma connaissance, le Conseil constitutionnel n'a rien censuré de tout ça, ou a au moins laissé passer 80% des décisions. Le Conseil d'État a accompagné aussi ça. Donc je veux dire, oui, théoriquement, c'est vrai qu'en pure théorie, tout ceci annule certaines de nos libertés, mais en pratique, face à une pandémie, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, nous dit le Conseil d'État depuis un siècle.
Mais vous pensez quoi? Vous trouvez que c'est légitime? Parce que, objectivement, effectivement, que nos libertés sont aujourd'hui entamées, c'est clair. Mais est-ce que c'est pour la bonne cause? D'ailleurs, dans la Constitution, il est même prévu qu'on puisse avoir moins de liberté et que le président de la République prenne davantage de pouvoir. Je crois que c'est l'article 16.
Oui, mais, il y a l'article 16, voilà. Il y a l'urgence aussi.
Mais aussi, on est prêt à l'accepter si c'est légitime, si ça vaut le coup. Bon, la question qu'on pose souvent actuellement, c'est est-ce que ces restrictions sont légitimes et ou est-ce que l'État n'en a pas trop fait? Voilà.
Alors écoutez, moi mon sentiment en tant que citoyen, c'est pas agréable d'être contraint, c'est jamais agréable. Mais pour qu'une démocratie vive, c'est aussi des contraintes.
Mmh. Et notre bon, donc vous êtes plutôt d'accord avec François en fait.
Oui,
je pensais que vous n'étiez pas d'accord, mais en fait vous êtes plutôt d'accord avec lui.
Par contre, là où je ne suis absolument pas d'accord, et je tiens à le dire, c'est les gens qui vont nous dire, à l'image de Natacha Polony, je la cite, dans son ouvrage, sommes-nous encore une démocratie? Ça, c'est une insulte faite à nos principes démocratiques et une insulte surtout aux gens qui vivent en Chine, en Corée du Nord.
Vous disiez qu'on était dans une dictature sanitaire.
Oui, dans la pratique.
Ne reconnaissez pas Natacha Polony de remettre en cause la démocratie?
Ah non, parce que moi je dis ça parce que c'est l'épisode prise en charge de la pandémie qui nous impose un certain nombre de contraintes. Mais la France, une démocratie, une des plus grandes démocraties du monde.
Mais les Français n'ont pas été beaucoup interrogés depuis un an. Alors c'est aussi le jeu de la Ve République, c'est un fonctionnement qui est comme ça. Il y a des instituts représentatives, mais c'est vrai que les Français, alors, il n'y a pas de référendum possible, etc. Il n'y a que les sondages d'opinion où on a le sentiment qu'au départ ils acceptaient, et maintenant ils acceptent un peu moins.
Et puis il y a un Parlement. Les Français sont représentés au Parlement.
Oui, mais le Parlement sous la Ve République, il enregistre. Disons-le, le fonctionnement de la Ve République, c'est le gouvernement qui décide, et même le président qui décide.
Bien évidemment.
Je le dis à gros traits, bien sûr, et à grands traits, je suis peut-être un peu caricatural. François et Raphaël, merci de ces premiers témoignages, 13h07. On a beaucoup de sujets aujourd'hui, dont ce sujet tout à fait particulier. Est-ce que vous êtes imitateur amateur? Parce que c'est la journée mondiale.
C'est un peu votre journée, hein.
Mais pas du tout. Si. Donc est-ce que chacun sait imiter quelqu'un? Appelez-nous au 3210. Hein, on va, en plus, c'est vendredi, on a envie parfois de changer les idées. Donc si vous savez imiter quelqu'un, une personnalité, alors il faut qu'elle soit connue. Hein, si c'est votre voisin, évidemment, c'est moins intéressant. Mais en revanche, si vous imitez une personnalité française, tant qu'à faire, eh bien, appelez-nous. Qu'est-ce que nous avons également comme sujet? Brigitte Macron qui pointe du doigt la mauvaise influence présumée des jeux vidéo sur le bien-être des adolescents. Vous jouez aux jeux vidéo?
Non, pas du tout.
Fortnite, je ne connaissais pas. C'est paraît-il 40 ans de moyenne d'âge, les amateurs de jeux vidéo.
Vous ne connaissez pas? Ça fait au moins 4 fois qu'on en parle. À chaque fois, vous dites que vous ne connaissez pas. C'est incroyable.
Désolé, parce que moi, j'avais des jouets en bois quand j'étais enfant, donc je ne connaissais pas cela. Oh. On pourra parler également des vacances scolaires, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? De Canal+, si vous le souhaitez. Puis l'ami Laurent Tessier me fait passer cette dépêche qui est datée de 13h. Nantes est en faveur d'un référendum sur le rattachement à la Bretagne. Figurez-vous que le conseil municipal de Nantes a voté vendredi un vœu demandant au gouvernement d'organiser un référendum sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne pour que l'aspiration démocratique des citoyens soit entendue. Alors ça, c'est quasiment l'info capitale du jour. Hein, est-ce qu'on aura une petite musique bretagne?
Non, ça, c'est une imitation d'une musique bretonne.
C'est une imitation d'une musique bretonne. Il est 13h08, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud.
Le conseil municipal de Nantes a voté vendredi un vœu demandant au gouvernement d'organiser un référendum sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Vous savez que la Loire-Atlantique est en dehors de la Bretagne depuis 1942, c'est un décret de Vichy. Monsieur Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. La France est-elle une démocratie défaillante? Nous avons été relégués dans cette catégorie par le magazine britannique The Economist. En cause, les restrictions provoquées par la lutte contre la Covid-19, Bénédicte Tassard.
Oui, parce que pour lutter contre l'épidémie, les libertés des Français ont été restreintes. Liberté de se déplacer à plus d'un kilomètre, liberté de sortir de chez soi après 18 ou 20 heures. Conséquence, la France, qui obtenait une note de 8,12 sur 10 en 2019, descend 24e rang en 2020 à 7,99.
Alors est-ce du grand n'importe quoi? Est-ce absurde de parler de démocratie défaillante? Vous voulez retrouver une liberté malgré la présence du Covid-19? Et bien en même temps, réagit Grégory sur la page Facebook. C'est logique de réduire les libertés en période de crise, du grand n'importe quoi pour tirer. On est dans un pays à qui nous soigne, nous protège, la démocratie existe, mais il y a des règles et si ça ne convient pas à certains, ils sont libres de partir, qu'ils aillent ailleurs dans des endroits beaucoup plus chauds, rajoute Denis. Pour Patrick, regardez comment se passent certaines manifestations et toutes les violences. Oui, notre démocratie n'est pas au meilleur de sa forme.
Non, mais c'est vrai que t'as envie de dire à ceux qui pensent qu'on n'est pas en démocratie qu'ils lisent des livres de Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag. Ils vont peut-être pas lire les 3 tomes, mais ils lisent les 50 premières pages. Et croyez-moi, ils sauront ce qu'est une dictature. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour Pascal Praud.
Et vous habitez le Bénin. L'autre jour, vous nous avez appelé déjà du Bénin.
Exactement. Bon. Le soleil du Bénin.
Ah pas, il fait beau au Bénin?
Il fait superbe aujourd'hui.
Ah bah, vous avez de la chance, parce qu'à Paris, il fait un doux, mais il pleuvait. La démocratie, est-ce que la France est une démocratie défaillante, selon vous, dans cette période?
Je le pense vraiment. Moi, je regarde tous les matins sur CNews, d'accord? Et quand je vois tous les matins les actus, la vie en France, les restrictions, je me dis vraiment, il y a une défaillance totale. Moi, de mon regard extérieur, je trouve que, comparé à beaucoup d'autres pays, La France a géré d'une façon catastrophique cette crise. Hein. C'est absolument catastrophique. Aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Quoi. La fermeture des restaurants, la fermeture de magasins et tout ça. Je ne comprends pas comment on n'est pas encore installé, par exemple, des cabines de désinfection à l'entrée des cinémas, des centres commerciaux, des théâtres. Ça coûte rien. C'est, vous passez sous une cabine, on projette un petit jet pour vous désinfecter et c'est tout.
Mais c'est pas tant. Vous savez bien les arguments qui sont donnés. C'est pas tant le cinéma dans lequel vous attraperiez le virus. C'est le brassage. On veut limiter que les gens sortent. C'est ça la raison. Alors, pour tout dire, on est moins sur cette ligne-là aujourd'hui.
Mais moi, je vois par exemple au Bénin. Au Bénin, d'ailleurs, qui a été conseillé par M. Audon-Vallée. Le gouvernement du Bénin a été conseillé par M. Audon-Vallée. La crise, elle a été gérée d'une façon extraordinaire. Et je regardais, je ne sais plus quand, c'était hier ou avant-hier, justement, par rapport aux notes où vous parliez, ou je ne sais plus si c'est ce matin, le Bénin est très mal noté. Je trouve que c'est totalement injuste.
Par exemple, au Bénin, tout est ouvert ?
Mais tout est ouvert. Moi,
les écoles sont ouvertes ?
Mais tout est ouvert.
Elles sont ouvertes. Donc il n'y a aucune restriction.
Non, aucune restriction.
Et il y a combien ? Mais peut-être que l'épidémie ne frappe pas le Bénin ?
Moi-même, j'ai eu le Covid il y a 3 semaines. Donc l'épidémie frappe le Bénin, plus que jamais d'ailleurs maintenant. Et honnêtement, on est obligé de mettre le masque, bien sûr, partout dans la rue, se laver les mains à l'entrée des magasins et des restaurants. Moi-même, j'ai doublé les tables de manière à ce que les clients puissent être à plus de 1m20.
Parce que vous êtes restaurateur au Bénin ?
Voilà, j'ai un restaurant.
C'est combien d'habitants le Bénin ?
Je ne vais pas dire de bêtises. Là, vous me prenez de court. Je crois que c'est 20 millions d'habitants.
Je vérifiais à la seconde.
Vous me prenez le court. Mais en tous les cas, franchement, la crise a été gérée d'une façon exemplaire.
Bon, il y a 11 millions d'habitants au Bénin.
11 millions d'habitants.
Mais vous connaissez les chiffres au Bénin, coronavirus?
Alors, je vais les voir de temps en temps sur le site gouvernement du Bénin, mais ils ont stoppé, en fait. Maintenant, ils ont stoppé de marquer les chiffres réels. Donc, on peut pas se cantonner vraiment aux chiffres. Ils sont pas vraiment réels. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que...
On fait état de 4119 cas. Il y aurait 54...
Oh, il y en a beaucoup plus.
Oui, il y aurait 54 décès. C'est ce qui sort... au début 2021, donc je pense que le chiffre, effectivement, est sous-évalué.
Oui, non, il est sous-évalué. En revanche, je pense que la population ici a plus d'immunité de par la façon de vivre depuis le début. Nous, on est en France, on est élevé d'une certaine manière, tout est pasteurisé, tout est... Voilà. Là-bas, il y a beaucoup plus de défense immunitaire, donc ils sont beaucoup moins victimes de cela. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que l'âge médian, c'est 20 ans. L'âge médian, c'est 20 ans. Donc, on a une population qui est très jeune et qui est forcément moins touchée.
En revanche, merci.
Je reviens à votre sujet du jour. En France, je trouve vraiment qu'il y a effectivement un manque de... On va pas dire un manque de démocratie, je trouve que c'est un peu excessif, mais il y a des restrictions qui sont très fortes.
Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous et bonne journée. Il n'y a pas de décalage horaire, visiblement, avec le Bénin ?
Il y a juste une heure de décalage horaire, une heure de moins pour nous.
Merci. C'est à combien d'heures de Paris, le Bénin ?
C'est en avion, c'est 6 heures d'avion.
Oui. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Mathéo est étudiant à Caen. Bonjour Mathéo, sur ce thème de la démocratie, vous êtes étudiant dans quelle matière, Mathéo ?
Je suis étudiant en administration économique et sociale après avoir été étudiant en droit.
Donc c'est un sujet qui peut vous intéresser, la démocratie défaillante et les restrictions de liberté. Quel est votre sentiment ?
Moi je suis extrêmement critique en fait à l'égard de la gestion de la crise du gouvernement. Effectivement, je pense que nos libertés ont été entravées outrageusement, que elles ont été d'abord réduites légitimement parce qu'il fallait trouver des solutions à la crise sanitaire, premièrement, mais ensuite on a bien vu que ça ne servait strictement à rien parce que l'épidémie continue à avancer. Mais là, moi, ce qui me fait bondir encore plus, c'est tous ceux qui crient à la dictature pour oui et pour non. Je suis le premier à être critique, je suis français au plus profond de mes os et j'aime manifester, j'aime contrer ou quoi que ce soit. Mais ceux qui crient à la dictature, ceux qui crient qui crient Macron dictateur, cela me révulse. Ce sont des insultes pures, dures.
Oh, il y en a pas beaucoup quand même.
Mais il y en a plein. Pascal, je suis dans les universités.
Non, mais sur les réseaux sociaux. Mais si vous interrogez, si vous faites un sondage avec les paramètres classiques, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de Français qui pensent que Emmanuel Macron soit un dictateur. Pour une raison simple, c'est qu'il ne l'est pas. C'est aussi bête que ça, d'ailleurs.
Mais on est parfaitement d'accord. Mais aujourd'hui, moi, les réseaux sociaux, il n'y a pas que ça. Je vous parle en même temps, dans les facs, il y en a plein des étudiants qui disent ça. Moi, je les appelle les étudiants aux cheveux bleus qui pensent avoir découvert l'eau chaude en s'inventant des âmes de révolutionnaires tous les quatre matins pour ni oui ni rien.
Mais en revanche, ce qui est vrai, et on peut le redire, c'est que le peuple français n'a pas été beaucoup associé depuis mars 2020. Ça, c'est une réalité.
Et par contre, là, je suis complètement d'accord. Et là, c'est un scandale d'État, à mon sens.
Ah oui, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Parce que tu vas pas organiser un référendum pour savoir si tu dois fermer ou pas les écoles, par exemple. C'est très compliqué. En fait, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions pour interroger le peuple français. Et le peuple français, il donnera son avis l'année prochaine.
Oui, mais le truc, c'est qu'on va pas attendre une élection présidentielle et que les entreprises meurent. Toutes les entreprises meurent actuellement et on voit que ça sert strictement à rien qu'elles meurent vu que l'épidémie a continué d'avancer. Donc là, on va juste dans la mauvaise direction. On sait qu'on va dans le mur, mais on continue de le faire. Au nom de quoi?
On y va un peu moins, j'ai l'impression, depuis la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on essaye de garder et de sauvegarder la vie sociale et...
Oui, mais vous savez, en temps d'épidémie, on sait pas ce qu'on sera fait demain. La seule chose qu'on sait, c'est ce qui a été fait hier. On sait pas ce qui est fait aujourd'hui non plus. Donc demain, ça peut remonter. On sait pas pourquoi. Ça peut ensuite redescendre. On sait juste qu'il y a une épidémie, on sait juste que les épidémies vont se multiplier. Ça, c'est tous les scientifiques qui le disent. Tous ceux qui sont des vrais spécialistes le disent. Donc, il faut qu'on juste.
Mais bon, les mêmes spécialistes scientifiques, il y a 15 jours, ils m'annonçaient que l'épidémie allait repartir, que les chiffres allaient augmenter dans les 15 jours. Et je rappelle quand même qu'hier, c'est quand même extraordinaire le chiffre d'hier, parce que les chiffres, on ne peut pas tricher avec les chiffres. Le nombre de personnes en réanimation a baissé hier. C'est quand même pas rien ce que je vous dis. Hier, il y avait 3240 personnes en réanimation. C'était moins 27. Moins 27 par rapport à la veille. Je rappelle qu'il y a exactement 15 jours, c'était un dimanche soir, le président du conseil scientifique, monsieur Delfraissy, était sur une antenne BFM et annonçait qu'il fallait reconfiner au plus vite le pays.
Mais Delfraissy doit démissionner. Ce mec-là dit des conneries à la minute.
Non, mais Mathéo, ne disons pas ça non plus. Il est président du conseil, il peut se tromper. Oui, mais en revanche, on va marquer une pause parce qu'il est 13h20 et on essaye d'être courtois. Sévère mais courtois. 13h20 et puis j'ai une surprise avec un thème que je vais développer quand on va revenir de la publicité. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
La journée mondiale de la contrefaçon et l'imitation est une contrefaçon. Donc si vous savez imiter quelqu'un, eh bien appelez-nous. Une imitation d'une personnalité, bien sûr. Si vous imitez votre voisin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est moins rigolo. Mais en revanche, pour une personnalité...
Comme
Laurent oui, pourquoi pas, si vous voulez. Mais en tout cas, Laurent Tessier... Que nous dit-on au standard?
Alors, nous allons parler des autres sujets dans un instant. La situation ne justifie pas à ce jour un nouveau confinement. Ce sont les mots de Jean Castex, mais le Premier ministre a prévenu.
Pour autant, l'heure est au respect maximal de nos règles communes. L'immense majorité d'entre nous les respecte. Mais il suffit qu'un faible nombre s'en affranchisse pour que le virus prospère.
Réjouissons-nous de ne pas être confinés, écrit Philippe sur nos réseaux sociaux. Enfin, ils ont compris qu'il fallait maintenir une certaine liberté. Mais est-on en train de perdre du temps? Soignants, dites-nous quelle est la situation sanitaire dans votre département, dans les hôpitaux 32-10. Les vacances scolaires commencent ce week-end pour un tiers de la France, la zone A. N'oublions pas tout, pas totalement. N'oublions pas les gestes barrières, la distanciation physique avec le couvre-feu, les restrictions, les remontées mécaniques fermées. Les vacances Made in 2021 sont là. Oubliez cette phrase.
Restaurant, boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi.
Oui, tout ça, faut l'oublier. Qu'avez-vous prévu de faire pendant cette période? Comment allez-vous occuper vos enfants? Dites-nous le programme s'il y en a un. Eh bien, on va jouer au Monopoly, écrit Pascal, pas Pascal Pro. Pascal sur nos réseaux sociaux. Restez tranquille à la maison pour Thierry.
C'est bien le Monopoly.
Oui, avec les enfants et on va changer d'air un peu du Gaëtan.
Par contre, foche, j'achète.
Ah, pas mal. Rue de la Paix aussi, c'est pas mal.
Rue de la Paix, c'est
cher. L'avenue des Champs-Élysées aussi, c'est un bon investissement. Par contre, les Parisiens, Régis Bruno à l'instant sur Facebook, si vous pouviez rester en Ile-de-France, ça nous arrangerait.
Mathéo, on se dit au revoir. Oui, Mathéo, étudiant, qui trouve que la démocratie est abîmée.
Oui, complètement, mais bon, il faut quand même connaître sa chance. Il y a quand même des pays dans le monde, je pense à la Birmanie, je pense à même la Chine,
mais évidemment,
qui vivent des choses pires que nous.
Mais évidemment, Mathéo, évidemment, et je vous dis, on peut pas forcément voyager, mais on peut au moins lire, et des témoignages, et effectivement, ceux qui ont vécu sous une dictature, lisez les témoignages, et on verra qu'en France, de ce point de vue-là, on est pas mal. Merci Mathéo.
Lire l'archipel du Goulag, merci beaucoup. Mathéo.
Ah ben, l'archipel du Goulag, généralement, on lit pas les trois tomes, parce que c'est faut beaucoup de temps, mais vous lisez simplement les 50 premières pages. Et exactement. Moi, je me souviens, les premières lignes, c'est on vient de chercher un matin et tu sais pas pourquoi. Et c'est le tu sais pas pourquoi qui est important, parce que tout le monde est coupable au fond et tout le monde peut être soupçonné. Et il raconte ça, Solzhenitsyn. C'est terrifiant. Dans une dictature, tu pourrais imaginer que si tu n'enfreins pas certaines règles, il ne t'arrivera rien. En URSS, c'était pas le cas. Même si tu n'enfreignais aucune règle, on pouvait venir te chercher à 6h du matin. Et c'est ça la terreur, et c'est ça la dictature. Merci Mathéo. Patrick, on parle des vacances. Les vacances, j'oublie tout. Ben non, justement, on n'oublie rien. Vous êtes dans le Morbihan, qu'est-ce que vous proposez pour cette période ?
Moi, Pascal, je suis comme vous, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a 8 jours encore, planait sur nous l'idée d'être éventuellement confinés de manière totale. Et là, on va laisser partir les citadins en vacances, et notamment tout ce qui est Paris, région parisienne. Et notamment venir chez nous en Bretagne, puisque au niveau des montagnes, eh ben, on ne peut rien faire, ou presque. Donc c'est certain qu'on va avoir un afflux phénoménal de personnes, et moi, je comprends pas. Soit on met en avant, bien entendu, l'aspect économique, je peux le comprendre, mais là, franchement, mais une dangerosité prépondérante.
Mais je comprends pas, le virus il est partout en France, donc que des gens...
Non, si. Je suis pas d'accord avec vous.
Je suis pas d'accord, globalement il est partout.
Dans notre zone actuellement, on est plutôt zone verte.
Il y a un microclimat dans le Morbihan, c'est ce que vous voulez dire.
Ça se passe très bien, les hôpitaux ne sont pas surchargés, donc n'amplifions pas le problème. Que l'on ne touche pas aux vacances, moi je peux le comprendre, mais déjà, je pense qu'il aurait été bien de faire en sorte que les vacances soient pour tout le monde à la même période, d'une part, et d'autre part, les gens restent dans leur région.
C'est curieux ce que vous dites, parce que si tout le monde est en même temps, par définition, c'est plus de gens qui bougent en même temps. Et là, au moins, on est étalé.
Non, ils bougent pas. On leur demande de rester dans leur région. Voilà.
Oui, mais je vais vous dire, Patrick...
Pas faire de brassage. Oui, voilà, c'est tout.
Oui, oui, là, bien sûr. Non, mais vous voulez défendre les Morbihans, comprends. Mais sur le fond, je trouve que c'est pas idiot ce que vous dites.
Je défends la logique. Il faut pas brasser. Il faut pas de brassage. Là, il va y avoir du brassage de région à région. Et en plus, il va y avoir du brassage d'enfants avec des grands-parents. Donc là, c'est complètement idiot. C'est idiot. Je trouve que j'ai du mal à comprendre. 8 jours avant, attention, peut-être confinement total. On pourra pas faire autrement. On peut pas passer au travers. Et 8 jours après, allez-y, partez en vacances. Non, mais attendez, c'est quoi ça ? C'est pas ce cirque, quoi.
Non, mais ça va être intéressant d'ailleurs cet été, parce que effectivement, alors si t'es dans une région sympa, si tant est qu'il y ait des régions qui soient pas sympas, mais l'été, il y a peut-être des gens qui ont envie d'océan ou de mer. Si t'es dans une région où t'es pas près de l'océan ou près de la mer, et qu'on te dit rester chez toi tout le temps, ça peut être...
Écoutez-moi, moi, ma proposition, je dis qu'il aurait été normal, et je pense que ça aurait été compris de la plupart des gens, de faire en sorte que, au jour d'aujourd'hui, ces vacances-là, on ne pouvait pas sortir, pour justement que lorsque l'été arrive... Alors qu'on sait que le virus, l'été, il aime pas trop, la chaleur ambiante, il aime pas trop l'aspect sec de l'air, eh bien, cet été, on était tranquille. Là, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que c'est un pari qu'ils font. Ils se disent, on va lâcher, c'est pas grave. Comme on est bien parti au niveau des personnes que l'on peut vacciner, normalement, cet été, on sera tranquille. Bon, mais pour moi, ça, c'est... Il joue là. Mmh. Là, il joue, gros.
Bah, je sais pas s'il joue, mais voilà. Ça veut dire déjà que comme les gens sont partis pendant 15 jours, parfois en vacances, tu peux pas annoncer de reconfinement dans les 24 heures parce que les gens, ils sont pas forcément dans leur résidence principale. En tout cas, merci Patrick. Vous êtes où dans le Morbihan?
Ah, je suis toujours à Mont-Terre-Blanc, je vous appelle très régulièrement, je suis ravi aussi de vous écouter. Et puis je finirai mon intervention pour reprendre quelque chose que vous aviez dit il y a quelques temps, à savoir, si Paris m'était compté, vous le faisiez très très bien.
Hein. Ah oui, parce que vous imitez Sacha Guitry alors aussi, parce que ça va être un de nos sujets.
Bien. Ah oui, tout à fait, Paris. Eh bien, si je vous parlais du Morbihan, ce serait encore mieux. Et puis, pour
c'est
finir,
un peu du Louis Jouvet.
Celui que vous aimez bien. Ça vous gratouille ou ça vous chatouille? Rassurez-vous, c'est le corona, il n'y a pas de problème.
Il y a un peu de Chirac aussi. C'est la journée mondiale de la contrefaçon. On a demandé aux auditeurs, effectivement, s'ils avaient une imitation dans leur poche, donc s'ils peuvent imiter quelqu'un. Donc là, nous avons eu un festival, nous avons eu Jouvet, Guitry et un peu de Chirac. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le confinement ou le reconfinement, les vacances, que faut-il faire? Cédric est avec nous, qui est chef d'entreprise à Bourg-en-Bresse.
Oui. Bonjour Pascal.
Bonjour Cédric.
Oui, alors je suis assez d'accord à la fois avec l'auditeur précédent et puis avec ce que vous avez dit vous-même dans le sens où s'il devait reconfiner pendant les vacances, c'est sûr que ça va être compliqué de faire rentrer tout le monde en 24 heures, vous voyez ce que je veux dire? Bref, moi je me dis, il aurait fallu reconfiner, il aurait fallu profiter des vacances scolaires pour reconfiner, c'est-à-dire qu'on pénalisait pas l'éducation déjà dans un premier temps. Et ça nous permettait, parce que a priori, d'après les chiffres, etc., on est sur un plateau, donc c'est-à-dire qu'on maîtrise pour l'instant le virus. On est d'accord là-dessus.
A priori.
A priori. Donc l'idée, pendant qu'on le maîtrise, c'est de lui marcher dessus à ce virus. Si on reconfine maintenant, on lui marche dessus le virus, c'est-à-dire on le maîtrise totalement derrière. Et ça nous donne une perspective d'avenir. C'est-à-dire aujourd'hui, on reconfinait pendant les vacances 3-4 semaines, j'en sais rien, mais on pouvait annoncer dans 3-4 semaines, eh ben, on rouvre les restos, on rouvre les lieux culturels.
Moi, je pense que c'est pas le calcul que vous faites, il est pas possible. Je pense que même si on avait reconfiné, c'est pas possible.
Eux, c'est quoi leur calcul? Parce qu'il y a un mot qui me dérange dans tout ça, de ces derniers jours, c'est le mot pari. On parie pas sur la santé des gens. On parie pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ils arrêtent pas dans leur discours. D'abord, les dernières annonces, pardonnez-moi, mais autant puissance d'un violon, ça aurait fait pareil. Mais je veux dire, on n'arrête pas de dire dans leur discours qu'ils font confiance aux gens, d'accord? Ils font confiance, ils comptent sur la responsabilité des Français. Eh ben, si le discours c'est de dire je compte sur la responsabilité des Français, compte sur la responsabilité des Français jusqu'au bout. Rouvre les restaurants, rouvre les lieux culturels, fais confiance aux Français, t'arrêtes pas de le dire dans tes discours. Fais confiance aux Français, fais confiance aux Français jusqu'au bout. Parce que là, on est en couvre-feu, etc., etc. Mais on a le droit de partir en vacances. C'est surréaliste quand même. C'est surréaliste. Parce que les gens qui sont frontaliers avec l'Italie, avec l'Espagne, ils vont y aller en Italie, en Espagne. Hein, la fermeture des frontières, ça c'est pareil, c'est de la rigolade. Hein. Parce que moi je peux fabriquer une grand-mère en Espagne pour un motif impérieux en 2 minutes. Hein. Donc à un moment, je veux dire...
Je peux te fabriquer une grand-mère. C'est drôle comme expression.
Écoutez,
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chacun a son... votre sentiment, c'est qu'il lui fallu reconfiner. Là encore, on va pas répéter les arguments qui ont été dits d'ailleurs par le Premier ministre hier. Et c'est intéressant parce qu'il a dit l'exact contraire de ce qu'il disait quand même il y a 8 jours. Il a pris en compte tous les autres aspects que le sanitaire pur. Et c'est le variant Castex hier qui était aux commandes. Et la semaine dernière, effectivement, il disait le contraire. Donc, c'est la vie. Et puis peut-être que dans 8 jours, il dira encore autre chose.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'apparemment, le virus, on le maîtrise aujourd'hui. Et quand on fait
on le maîtrise, on a un plateau.
À un moment, quand on a une porte d'entrée, eh ben on l'écrase. C'est le moment de l'écraser.
Non, mais Cédric, votre raisonnement s'entend. Votre raisonnement s'entend. Merci en tout cas. Merci.
Avec plaisir.
Nathalie est là également sur le confinement. Bonjour Nathalie, vous êtes assistante maternelle à Grenoble. Oui. Est-ce que la situation vous convient?
Moi, je suis déboussolée par tout ça. Déjà, leur prise de parole hier pour rien annoncer de nouveau et continuer de nous apprendre à respecter les gestes barrières. Bon, on sait faire. Moi, je pense que on n'est pas confiné, on ne peut que s'en satisfaire. Soyons pas masochistes. On va pas dire, moi, je suis en vacances ce soir. Hein, je suis la zone en vacances. Je vais pas dire, oh là là, j'aurais préféré être confiné demain. Donc, soyons pas hypocrites. Tant mieux. Par contre, là où je suis perplexe, c'est sur le manque de perspective, parce que concrètement, on est à un plateau dans les 20 000, disons cas, depuis Noël. On ne confine pas.
23 000 plateau, cas confirmés hier.
Oui, voilà, on est dans cette fourchette 20 000, 25 000, voilà. On y reste, on ne confine pas. Mais du coup, concrètement, on ne nous dit jamais, finalement, quel va être le curseur décisif qui va faire qu'on va enfin...
Si on le sait, c'est les patients en réanimation. C'est-à-dire que si l'hôpital est en tension, on sait bien que le risque de reconfinement est grand. Et là, est à 3240 patients en réanimation. Je le répète, ce qui est extraordinaire hier, c'est que le chiffre, il a baissé. C'est-à-dire qu'on a, il y a 27 personnes de moins en réanimation. Alors, il y a un peu plus d'hospitalisations, d'ailleurs, sans doute.
Donc, du coup, si le curseur, c'est le nombre de patients en réa, pour qu'on sorte de cette semi-liberté, ça veut dire qu'il faut réussir la politique vaccinale, alors.
Ah bah, bien sûr.
C'est notre seule porte de salut, quoi.
Bien sûr. Alors, Nathalie, vous avez tout résumé. C'est vrai qu'il y a des hôpitaux, et on l'a entendu sur RTL, qui sont en difficulté, avec des opérations, parfois, qui sont reportées, et ponctuellement, mais globalement, le chiffre reste quand même, si j'ose dire, sous contrôle, Nathalie.
Et ce que je trouve surprenant, c'est que finalement, on est tous satisfaits de ne pas être confinés. Mais quand on regarde la vie qu'on a, on n'est pas reconfinés, mais on a quoi comme vie? En ce moment, à un point où on se satisfait de notre quotidien avec toutes ces restrictions, avec ces secteurs en souffrance, en ne sachant pas, la deadline de cette vie-là, quoi.
Vous l'avez dit, c'est la vaccination. On peut imaginer qu'à la fin de l'été, on sera sorti de cette période.
Vous disiez on n'ira pas au restaurant avant septembre, mais je trouvais presque que vous exagériez.
Ah non, mais moi, je pense que ce ne sera
vraiment,
pas ouvert cet été.
Oui,
j'en ai peur. J'en ai peur, alors j'espère me tromper. Mais il y a des gens qui en ont ras-le-bol. Hein. Je vais vous dire qu'il y en a des gens, et on les entend ici, notamment, il y a une catégorie de personnes qui en a assez. Ce sont des gens qui ont entre 35 et 40 ans, qui bossent et qui ont des enfants jeunes et qui sont contraints au quotidien. Les enfants peuvent pas faire de sport. Les familles...
On n'a pas de loisirs.
Une catégorie qui souffre beaucoup. Et en plus, qui échappe à la gravité du virus. Donc, moi, je vois, il y a beaucoup de gens. Je vous dis, alors c'est pas une statistique que je vous sors avec étayée très précisément, c'est un grand trait là encore, mais entre 30 et 50 ans, les jeunes couples, les jeunes familles, c'est compliqué. C'est compliqué avec des ados parfois à la maison, c'est compliqué. Merci Nathalie, merci beaucoup. Il est 13h38, c'est vendredi. Je vois qu'Olivier est là, au standard, Cyranouche est là, Pierre-Louis est là également. Et Evan était là. Je pense que Cyprien Sini, comme tous les vendredis, viendra nous donner le sommaire de On défait le monde. Stéphane Carpentier, il vient jamais nous voir.
Il est là, regardez.
Mais oui, mais il veut pas nous voir.
Je le vois là, juste devant
il rentre jamais.
Devant le studio.
Il ne nous aime pas, peut-être. Il n'aime pas. Il ne nous aime pas.
Non, c'est parce qu'il prépare déjà RTL Soir, il doit se concentrer.
Mais il prépare RTL Soir et le samedi matin.
Bien sûr.
Parce qu'il finit tard et il se lève tôt. À tout de suite, 13h39.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier qui sera ce soir de l'équipe dont est fait le monde avec Greg Caradoni peut-être.
Bah sûrement, enfin j'espère.
Bah j'espère aussi.
Ça sera bien.
Bah j'espère aussi. Voilà, on a bien vendu le programme, vous sentez. Hein.
Bien sûr,
mais c'est parce que le patron Cyprien Sini n'est pas encore là.
Mais Cyprien, j'espère qu'il passe, mais il dort à cette heure-là.
Il va être dans sa voiture. Ouais. Allez, autre sujet. Brigitte Macron pointe du doigt la mauvaise influence présumée des jeux vidéo sur le bien-être des adolescents. La musique. musique de Super Mario, mais une déclaration, chers parents, peut vous faire réagir. Fortnite, c'est terrible quand ils sont sur des jeux comme ça. Comment faire pour qu'ils arrêtent des propos tenus lors d'un déplacement à la maison des adolescents de Blois pour échanger avec la jeunesse? Alors, comment faites-vous à la maison avec vos enfants? Êtes-vous vigilants? Les jeux vidéo sont-ils nocifs? 32-10. Et puis, le conseil municipal de Nantes a voté un vœu qui demande au gouvernement d'organiser un référendum. Référendum sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Alors, pour ou contre ? 32-10.
Dans les prisons de Nantes,
Striane, ça ? Bon, je suis pas sûr que ça passionne la France entière, hein, quand même. Nantes en Bretagne, si vous habitez Perpignan, Cannes ou Toulouse, peut-être que vous en moquez complètement d'ailleurs. Jean-Luc, alors évidemment, on va avoir des Nantais ou des Bretons qui vont nous appeler. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Pascal.
Vous êtes Nantais.
Je suis Nantais.
Bon, et vous vous sentez breton? Vous vivez comme un breton?
Oui, tout à fait. J'ai 65 ans, ça fait 65 ans que je suis Nantais, je me sens breton. Donc le sujet, bon, qui pourrait paraître léger effectivement à 90% de la France entière, n'est pas si simple que ça. Nous avons perdu, nous, en Loire-Atlantique, notre identité. C'est-à-dire que nous n'en avons pas en fait. Les Corses sont des Corses, les Lorrains sont des Lorrains, les Alsaciens, Alsaciens. Et puis nous, en Loire-Atlantique, on est quoi? On est 40% Vendéens, 60% Bretons, et encore. Et vous avez tous les néo-nantais qui, en fait, s'en fichent. Donc, sur le fond, oui, je me sens forcément breton. L'histoire le dit. Le nom des communes de Loire-Atlantique le disent, Montoire de Bretagne, Sainte-Anne de Bretagne, Vigneux de Bretagne, tout ça ce sont Saint-Nazaire, les pays bretons. Alors j'entendais sur vos ondes l'autre jour, pays breton que je suis né, puis c'était ne m'a plus, j'ai plus jamais France. Et puis on dit, ah ben non, Saint-Nazaire n'est pas en Bretagne, il y a un chroniqueur, ben si, Saint-Nazaire est en Bretagne, bien entendu. Voilà. Mais sur la forme, cet avis de référendum est voué totalement à l'échec.
Ah, vous pensez?
Ah ben, totalement.
Et pourquoi?
Mais parce que nous sommes combien de Loire-Atlanticiens, je ne sais même pas comment on dit.
De Ligériens.
Oui, oui. Ah non, les Ligériens, ça va jusqu'à Angers.
A priori, on dit des Ligériens pour les habitants de Loire-Atlantique.
Je sais bien, mais on dit aussi les Ligériens pour les Angevins. Bon, ça dépend selon
qui
gagne ou qui perd.
Oui, oui, oui.
Bon.
Angers, c'est Maine-et-Loire. Hein. Angers, oui, c'est 49.
Oui, 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 oui. Mais nous n'avons rien à voir.
Loire-Atlantique, c'est 44.
Oui, nous n'avons rien à voir avec les Angevins, rien à voir avec les Vendéens, rien à voir avec les Mayennais et les Sartois. C'est pas péjoratif de le dire, mais c'est comme ça dans la même culture.
Il n'y a rien de péjoratif. Bon, faut peut-être rappeler quand même pourquoi il y a débat. En fait, c'est après l'union de la Bretagne et de la France en 1532. Donc, Rennes est devenue la capitale de la région. Par la suite, le département de la Loire-Atlantique a été supprimé et rattaché plusieurs fois à la Bretagne pour des raisons économiques et démographiques. Plus tard, en 41, le maréchal Pétain sépare la Loire-Atlantique de la Bretagne sous la pression du maire de Nantes à cette époque. En effet, il voulait que la ville quitte la Bretagne après que Rennes soit devenue la capitale de la région. Ainsi, la ville de Nantes s'est fait chasser de Bretagne, mais la culture bretonne est restée à Nantes.
Ouais, c'est un problème d'égo entre deux villes.
Oui.
Nos meilleurs ennemis, les Rennais. Mais par contre, la culture, elle est restée à Nantes. Le château des Ducs, il est à Nantes. Bon, mais un référendum, là je parle sur la forme, n'a aucune chance d'aboutir. Il y a trop de néo-nantais, il y a trop de néo-ligériens, pour prendre votre terme, qui vont complètement se désintéresser du sujet.
Bah oui, mais un référendum, tout le monde n'est pas obligé d'y aller, mais il peut être quand même voté.
Il est voté, si c'est ici à 25% de votants, c'est pas significatif ni représentatoire.
Le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne est un sujet récurrent de la vie politique nantaise. En 2014, plus de 10 000 personnes avaient manifesté dans les rues de la ville pour demander la réunification de la Bretagne. En plein débat sur la réforme territoriale actuellement, la Bretagne est composée de 4 départements, Ille-et-Vilaine, Côte d'Armor, Finistère et Morbihan. Nous sommes avec...
Je suis pour.
Nathalie est là. Merci Jean-Luc, vous avez, vraiment merci beaucoup. Nathalie est de Pornic.
Oui, bonjour Pascal.
Et Pornic, c'est encore en Loire-Atlantique, c'est en Vendée, je le dis.
Oui, c'est en Bretagne.
Tout à fait.
Oui.
Totalement.
Donc vous êtes concerné parce que c'est le département de la Loire-Atlantique.
Voilà, et moi je suis à 100% bretonne.
Mais qu'est-ce que ça changerait au fond? Parce que qu'est-ce que ça changerait dans votre vie quotidienne?
Dans ma vie quotidienne, eh bien, écoutez, de toute façon, moi, je me sens totalement bretonne. Mais moi, dans ma
c'est
vie
quoi se sentir breton?
Ma grand-mère né à Quimper, j'ai du sang breton dans mes veines, et je ne vois pas pourquoi que à Vichy, on a décidé de retirer la Loire-Atlantique de la Bretagne, des hommes politiques. Alors, on nous demande un référendum. Alors moi, ça par contre, vous voyez là, là je boue un petit peu, parce que à Notre-Dame-des-Landes, on nous a demandé un référendum. Ah non, tout le monde a voté pour l'aéroport. Et l'aéroport n'a pas été fait. On n'a pas suivi référendum. Là, on nous demande encore, on veut un référendum. Comme le disait très bien le monsieur, il y en a une certaine partie qui ne seront pas du tout intéressées, qui n'iront pas. Et ça tombera encore à l'eau. Hein? Donc, mais moi, je me sens... Mais
c'est quoi se sentir breton? C'est quoi être breton, selon vous?
C'est quoi être breton? C'est tout simplement une culture.
Oui, mais vous la définissez comment? Dans votre caractère? En quoi êtes-vous bretonne?
Dans mon caractère, ben, je suis têtue comme une bretonne. Vous voyez, pour vous donner une anecdote, il y a plusieurs années de ça, j'ai été faire une exposition quelque part. C'était pas une exposition, c'était travailler pour dans un Leclerc et on m'a repris et j'ai repris la personne qui était un PDG et moi j'étais qu'une petite employée et il m'a dit mais vous êtes qui? Je lui ai dit mais monsieur je fais pas partie de votre personnel et je suis ici en déplacement pour travailler dans votre magasin, c'est à fait mais et il me dit ben vous venez d'où? Je lui ai dit de Bretagne. Ah ben forcément vous êtes une Bretonne, vous avez du caractère et les Bretons ont du caractère.
Eh bien, merci Nathalie. Les Bretons du caractère. C'est vrai que nous connaissons quelques Bretons dans cette rédaction d'RTL. Notamment un qui...
Notamment un qui parfois fait des petites incursions dans le studio.
Notamment un qui, effectivement, est un Breton qu'on pourrait écouter demain. Pourquoi pas, d'ailleurs, pendant le match du foot. Demain soir, on refait le match avec notre ami Christian Olivier, qui reviendra certainement d'ailleurs sur les droits du football. Donc on le salue. Écoutez, c'est intéressant ce que disaient Nathalie et Jean-Luc, qui sont donc pour le rattachement de Nantes en Bretagne. Une petite musique, une petite virgule musicale bretonne, cher Grégory?
Bien sûr, avec plaisir.
Ça, c'est la jument de Michaud. La jument de Michaud et son petit poulain, qui ont... C'est dans 10 ans. Je peux la chanter en breton si vous voulez.
Bah allez-y, je vous écoute. Enfin, on vous écoute d'ailleurs.
C'est du breton.
Non, c'est pas du tout
c'est
du breton.
C'est du breton.
Vous pouvez traduire, peut-être.
J'ai fait breton première langue. On va passer au sujet immigration, puisque aujourd'hui, alors Jacques est là, il a 84 ans, on va le prendre dans une seconde après la pub. Il a 60 imitations à son actif et on va essayer de les reconnaître. Jacques, je lui dis bonjour, patientez deux secondes parce que c'est la journée mondiale de la contrefaçon et l'imitation est une contrefaçon. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
On a envie de sourire un peu, c'est vrai, parce que l'actualité est rude, elle l'a été toute la semaine. On est vendredi, donc on est avec Jacques pour les imitations et on va demander à nos auditeurs d'imiter. Bonjour Jacques.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Oui.
Vous imitez depuis combien de temps?
Depuis pas mal de temps, une quinzaine d'années.
Bon, donc qu'est-ce que vous nous proposez en magasin? Et on va essayer de reconnaître, hein, bien sûr, ça va être ça le jeu.
Salut! Eh ben, on va faire plusieurs imitations. Alors, une imitation.
Ça, c'était Patrick Sébastien, je pense.
Oh, c'est que de l'amour. Dans son vieux par-dessus râpé, s'en aller l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux.
Ça, j'ai reconnu la chanson, je suis pas sûr.
Il y avait un dimanche par semaine, les autres jours, c'était de la graine. Il fallait gagner comme on peut.
Donc ça, c'est... Vous imitez Daniel Guichard, là.
Voilà.
Alors, on a reconnu la chanson.
Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile. Je n'en connais que de fragile. Et difficile. Oh, femme.
C'est Julien Clerc, je pense. J'ai reconnu. Magnifique.
De ma vie,
Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui, car depuis, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'ai failli les fleurs du mal.
Donc c'est là-bas. Et vous avez 84 ans, Jacques ?
Oui.
Et dites donc, votre voix, elle est impeccable, hein ?
Écoutez, je me suis attaqué là une chanson qui me plaît beaucoup. Là, je sais pas si vous allez reconnaître les interprètes.
Oui.
S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais comme un tout premier regard, le début de mon histoire.
Ah, ça, je connais pas. C'est quoi ça, hein?
Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre d'ici jusqu'au bout du monde. Qu'importe où le temps nous portera, il est là. Il est la voix qui nous chante, un fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. C'est la dernière chanson de Fiori et puis de...
Ah oui, c'est pour ça que je connaissais pas. Bon bah écoutez, franchement on applaudit Greg, on applaudit, on a des applauds pour Jacques. Alors restez avec nous parce qu'on a Yves qui est là. Bonjour Yves.
Oui, bonjour.
Alors le but, vous nous proposez une imitation et nous on doit reconnaître.
Ah. Eh ben, on va en faire une, suite. Et je me demande si tu existes encore. Et je me demande si ton cœur est au nord. Si tu fais l'amour le soir quand tu t'endors.
C'est que trop soir.
Mais pour moi, rien n'a changé.
Magnifique. C'est bien, Yves. C'est bien. C'est très bien, on a reconnu. C'est Claude François. C'est Claude François. Depuis quand vous imitez Yves?
J'imite depuis.
Vous êtes un peu loin là. Vous avez mis le haut-parleur?
Oui, j'avais coupé là.
Ouais. Non, en fait, vous l'aviez mis. Mais oui. Donc là, c'est. Mais bon, c'était pas mal. Donc depuis combien de temps vous imitez?
Oh, du l'âge de 13-14 ans. Quoi.
Et quel âge vous avez?
J'ai 56 ans.
Donc, on a quasiment le même âge. Donc, vous avez grandi avec Thierry Leluron dans la télé.
Exactement.
Bon. Alors, donc là, c'était Claude François. Est-ce que vous avez une autre voix à votre répertoire?
Oui, en chanteur, il y avait Serge Lama, mais autrement, il y avait évidemment...
Ah, il y a du monde. Qu'est-ce qui se passe, là? Attendez. Yves, oui, alors, revenez, Yves. Serge Lama, dites-vous?
Oui, Serge Lama, et puis, Michel Galabru, évidemment.
C'est super. Alors, Michel Galabru.
Faites-nous Michel Galabru.
Alors Michel, alors avec ces citations, hein. En plus, je n'étais pas beau, je ne pouvais pas arriver par les femmes, je n'étais pas comestible. C'est un gros handicap et je ne peux pas être regardé par les femmes.
Hein. Eh, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal, Michel Galabru. Non, c'est bien. Et quand vous étiez petit, vous faisiez des galas, je vois.
Oui, des galas.
Je lis ça sur l'affiche. Ah ouais,
voilà,
c'est bien.
Voilà.
Et vous continuez aujourd'hui?
Et je continue un petit peu, mais là, dans un autre domaine, je suis plutôt magicien. Voilà.
Bon, bah, vous avez le goût du spectacle et le goût d'être sur scène.
Voilà.
Eh ben écoute, franchement, c'est une bonne idée qu'on a eue parce que c'est rigolo comme tout. Alors on a Laurent, c'est pas Laurent Gérard, mais c'est un autre Laurent qui est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Qui vous imitez?
Écoutez, Monsieur Pro, notre maison brûle et, comme par hasard, nous regardons ailleurs. Est-ce que vous avez reconnu,
monsieur? Oui, ça. Mais c'est pas mal, en plus, vous imitez bien, c'est, voilà, c'est.
Ça va, j'en ai d'autres, hein. D'ailleurs, c'est Jacques Chirac qui orne ma boîte vocale, c'est-à-dire que si vous avez le bonheur de m'appeler et que je décroche pas, c'est Jacques Chirac qui parle à ma place.
Voilà. Bon, et qui vous imitez encore?
Alors, écoute, c'est monsieur Pro, excusez-moi, je sors de ça. J'ai un peu de la purée dans la bouche. Et je suis tout à fait honoré de pouvoir vous parler aujourd'hui, n'est-ce pas?
Et c'est drôlement bien, attendez.
Bah, écoutez, j'en fais depuis que j'ai 18 ans, j'ai fait des petits spectacles, mais pour amuser la galerie.
Ah, mais non, c'est super, là, Giscard, c'est vachement bien, c'est bien, c'est rigolo.
J'en ai dans
mais est-ce que vous avez une imitation? Parce que souvent, je disais, on imite l'imitateur, déjà, qui a fait le travail de piquer les défauts, etc. Est-ce que vous avez une imitation d'une personnalité que personne ne fait?
C'est compliqué, hein.
Bah oui, c'est vrai c'est que compliqué. C'est. En fait, c'est souvent, on imite le Luron, on imite Gérard, on imite l'imitateur, parce qu'il a, repéré les choses qu'il fallait.
J'imite aussi beaucoup des accents étrangers.
Ah bon?
Et notamment parce que moi, j'habite en Belgique, donc.
Oui.
Et... Je ne veux pas parler un peu comme en Belgique, vous voyez, monsieur, ici. je vous appelle ici, mais je suis en France, hein, monsieur. J'habite en Belgique, je ne veux pas me fâcher avec ce pays parce que je les adore. C'est vraiment des gens super.
Ah, c'est bon. Écoutez, franchement, on n'a pas beaucoup ri cette semaine et là, vous allez nous faire rire. Il est quelle heure? Il est 13h58. Peut-être qu'on va marquer une pause. Greg Caradoni, vous imitez quelqu'un ou pas? Parce que Greg, il se fout de moi quand j'essaye d'imiter quelqu'un.
Moi, j'ai une super imitation.
Ah, allez-y.
À bicyclette.
Ah, c'est tout ce que vous faites?
Oui, bah, écoutez, déjà, c'est pourri, donc je vais m'arrêter là.
Moi, j'imitais Pierre Freinet, mais je ne savais dire. Je m'appelle Pierre Freinet. Et c'est tout ce que je savais faire.
Voilà.
Mais Pierre Freinet, plus personne ne connaît le pauvre.
Je crains que le débrief de Laurent Tessier dure une demi-heure.
Ah, ça va être magnifique. Est-ce qu'il est là, Sini? Franchement, réveillez-le quand même, qu'il vienne nous dire le programme dont défait le monde. 13h58, Olivier Bois va nous rappeler les titres à 14h.
Inimitable.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
La journée de la contrefaçon, donc on demande aux éditeurs leurs imitations, mais en attendant les prochaines, Olivier Bois est là pour le rappel des titres.
Et d'abord devant les assises de la Marne, l'avocat général requiert 30 ans de prison à l'encontre du beau-père du petit Tony, mort en 2016 à l'âge de 3 ans sous ses coups. On attend les peines maintenant requises contre la mère, accusée elle de ne pas avoir dénoncé les violences que subissait son fils. Le RERB toujours à l'arrêt entre Châtelet et Roissy depuis ce matin après une panne d'alimentation. Le RERD est perturbé aussi. Pas de retour à la normale avant 15h. C'est l'heure qui est annoncée depuis ce matin. Le Covid et ses répercussions industrielles. L'usine Renault-Sondouville en Normandie va devoir mettre ses 2700 salariés au chômage technique. Lundi et mardi, il y a pénurie de matériaux électroniques en provenance d'Asie, notamment pour fabriquer les GPS et les airbags. Le parti d'Aung San Suu Kyi donne de ses nouvelles. Elle est en résidence surveillée dans la capitale depuis le putsch des militaires lundi dernier. Pour la première fois ce matin, il y a eu une manifestation d'importance à Rangoon, manifestation de professeurs et d'étudiants. La météo de demain, le temps sera pluvieux sur l'ouest, sauf sur la Bretagne et sur les côtes de la Manche. Il y aura du soleil à l'est, de Belfort à Aurillac jusqu'à Marseille. Et il fera demain matin entre 6 et 15 degrés du nord au sud.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Si vous nous rejoignez, vous êtes peut-être surpris parce que vous allez entendre des gens imiter ou chanter. C'est vrai que c'est vendredi, un peu de légèreté. Nous célébrons cette journée de la contrefaçon. On a demandé aux auditeurs, auditrices, s'ils savaient imiter, s'ils avaient une imitation en magasin. Et c'est le cas de Sonia qui habite le Morbihan. Bonjour Sonia.
Bonjour Pascal.
Et merci, vous avez 33 ans Sonia. Oui, il y a moins d'imitatrices qu'il n'y a d'imitateurs.
Oui, oui, oui.
Et pour est-ce que vous imitez des hommes, par exemple?
Quelques-uns.
Qui vous imitez?
Ah bah, je vais essayer de vous faire deviner. Mais je pense que vous allez le trouver. Hein.
Eh bien, allons-y, Sonia.
La lumière revient de là et le film est terminé. Et tu l'as derrière séance.
Eddie Mitchell.
Bah, je crois que c'est Eddie Mitchell, forcément. Oui, on a reconnu Eddie Mitchell. Bon, c'est Sonia. Ça. Autre imitation.
Attendez, je cherche une chose.
Ah oui, parce que là, c'était l'imitation du silence que vous nous faisiez. Ce qui était plutôt réussi, d'ailleurs.
Elle était pas mal. J'ai troqué mes cliquets, mes claques. Contre mes portes, j'ai des claques. Un sac à dos pour oublier. Car c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène. Ce qui m'entraîne, c'est ma peine, plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine.
C'est Vianney, non?
Oui, c'est Vianney.
Ah, bah écoutez, c'est Vianney. Bah écoutez, c'est déjà moderne, donc ça c'est bien, voilà. Parce que vous n'êtes pas allé taper dans un registre ancien. Et puis, une petite troisième, peut-être, Sonia?
Allez.
Taille-moi les hanches. À la hache, j'ai mangé de chocolat.
Ça, c'est la mieux, je trouve, des trois, non?
Oh, Voilà, j'ai pas dit que j'étais une grande imitatrice.
Mais non, mais c'est pas mal. D'abord, vous avez du courage et vous êtes un peu, vous êtes désinhibé, donc c'est bien. Faut y aller, faut avoir du courage. Mais quand est-ce que vous faites ça, par exemple? Vous faites ça sur scène ou vous faites ça dans la...
Ah non, du tout, vraiment.
Vous faites ça pour les amis?
Ouais, pour les amis, puis même moi pour travailler ma voix, parce que je suis quelqu'un qui est très 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 timide. Ça s'entend pas du tout.
Ah non, ça s'entend pas, vous êtes timide, c'est drôle. Pourquoi vous dites ça?
Ben, parce que je suis quelqu'un... Ben là, déjà, rien que de vous parler, je suis toute tremblante, hein, déjà.
Bon, ça voilà. S'entend pas du tout.
Mais non, voilà, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à parler en public, en fait. Et il y a quelques années, quand j'ai commencé en même temps à faire des imitations, en fait, c'était parce que j'avais envie de travailler ma voix pour devenir animatrice radio, justement. Et du coup, bah voilà, je me suis forcée à écouter beaucoup de chansons, d'animateurs radio aussi, que j'ai imité quelques-uns. Mais voilà, je fais beaucoup plus d'imitations chantées que parlées, même si je commence à en faire en parlant. Et puis du coup, à force d'en faire, j'ai travaillé ma voix et je travaille aussi ma confiance en moi. Donc du coup, c'est bénéfique dans les deux cas, quoi.
Vous faites Gilles Verdez également, paraît-il?
Oui.
Non, Gilles Verdez, notre ami chroniqueur qu'on entend dans On fait le match. Alors ça, on va le faire. Et puis si c'est très bon, Christian Olivier reprendra une séquence samedi soir dans l'émission.
Il n'y a pas de souci.
Alors faites-nous Gilles Verdez.
Bonjour Pascal, comment ça va?
Écoute, ça va Gilles, il y a longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles. Tu es content de que le football revienne sur Canal+?
Ah oui, hein, franchement, c'était très compliqué. Et puis voilà, au moins ça revient en France et tout ça. Mais tu sais très bien qu'il y a plein de choses auxquelles je suis pas content et c'est très mal à ma France.
Bon, écoutez, merci Sonia.
Je vous en prie.
Merci. Vous faites quoi dans la vie, Sonia?
Je recherche du travail.
Bon, et c'est quoi votre formation?
Comme hôtesse de caisse. Enfin, à la base, j'ai une formation de secrétariat, mais je suis en reconversion professionnelle pour devenir hôtesse de caisse.
Bon, écoutez, bonne chance et courage. Merci. Mais beaucoup. Ça se trouve quand même, ça, ces jobs-là.
Oui,
rassurez-moi.
Là, c'est vrai que voilà, comme je suis en Bretagne, dans mon coin, il y a plus de petits commerces locaux. Donc, du coup, par rapport à la crise, c'est un peu plus compliqué. Mais je ne désespère pas. Voilà,
bon.
Je vais bien finir par trouver. Il y a bien une place pour moi et pour tout à chacun, je pense. Donc,
vous avez de l'énergie en tout cas et vous êtes sympa.
Merci. Vous aussi.
C'est gentil, Sonia. Courage. Courage.
Merci
14h06. Et,
comment Patrick Poivre d'Arvor lancerait la pub, par exemple?
Voilà, avec quelques minutes, on va voir. Sans aussi, si on va des publicités, on se rend. Et puis après, avec Caranoni, avec les trois ce soir. À demain.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal.
Chaque vendredi, il vient dans le studio nous donner le programme de On défait le monde, mais il a un t-shirt couleur Malabar aujourd'hui.
C'est un pull jaune.
C'est un pull d'un jaune. Je ne qualifierais pas ce jaune, mais chacun comprend.
Poussin?
Non, c'est un autre jaune. Généralement, on dit jaune.
Le jaune de la personne qui n'a pas de chance par rapport à sa compagne ou son compagnon.
Comment ça va, monsieur Sini?
Impeccable. Bonjour à tous.
C'est quoi le programme ce soir?
Alors ce soir, on va faire Ode à la Russie, qui vont sauver le monde grâce au vaccin russe.
Oui, Spoutnik.
Voilà, Spoutnik 5, Spoutnik V. V comme Vladimir peut-être. Non, on parlera de la longue tradition des scientifiques russes, l'école scientifique russe, qui date de l'Union soviétique, etc.
Ça va être passionnant.
Plongé dans cet univers-là. Oui. On vous parlera aussi des pilotes de ligne, qui volent plus beaucoup en ce moment. Et l'avion, c'est pas comme le vélo, vous voyez, ça s'oublie. Donc quand ils vont recommencer à voler, donc comment font-ils pour entretenir?
On aura des crashs. C'est compliqué. Donc non seulement on aura pandémie, et après on va avoir des avions qui vont nous tomber sur le coin de la figure.
On va justement vous expliquer comment ils font du simulateur toute la journée, tout, c'est passionnant aussi. Et puis voilà, on parlera aussi un peu de Super Bowl. Ce week-end.
Vous savez que...
Tout peut s'arrêter à tout moment, parce que l'OM peut être acheté par les Saoudiens.
Mais c'est vrai, ça, ou
pas? Mais je sais pas, écoutez, c'est ce qui enfle dans les milieux informés. Donc,
dites-moi, vous savez que nous sommes dans une séquence imitation. On demande aux auditeurs d'imiter une personnalité.
Tout à fait.
Vous imitez quelqu'un?
Personne.
Mais si vous faisiez l'ami Eugène en arrivant...
Eugène Saccomano, mais je le fais très mal.
Mais comment vous
faisiez? C'est grotesque, ce que vous me demandez.
Non, pas du tout.
Oh là 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 là!
Pascaron, Pascal Pro.
Voilà, mais
on pense à Eugène très souvent.
Il n'y a pas un jour où on ne pense pas à Eugène. Bon, merci.
Vous imitez qui, vous?
Ben, j'imite.
Ah non, pitié.
Bah, il faut qu'il joue le jeu.
Il a dit Frédéric Mitterrand, par exemple. Après,
on est avec Nicolas.
Non, vous imitez très bien Dominique Besnéard.
Ah, j'adore. Dominique Besnéard, alors là, je le trouve formidable. Et je vais vous dire, c'est pas la première fois. Ouais, bon, Nicolas est avec nous.
Ah, Nicolas, j'ai écouté Nicolas et après, je retourne travailler.
Bon, écoutez, voilà. Nicolas. Bonjour, Nicolas.
Bonjour, Pascal. Bonjour à tous.
Vous habitez dans le Finistère. Mais il y a aujourd'hui, on a plein d'appels de la Bretagne.
C'est ça.
Bon. Oui, bah, oui. Qui allez-vous imiter?
Écoutez, je vais vous laisser deviner, mais c'est pas trop compliqué. Attendez que je me trompe pas, des fois je me trompe. Écoutez, monsieur Pro, mais quelle indignité. Vous vous rendez compte de tout ce que vous dites? Vous vous rendez compte de tout ce que les juges ont contre moi? C'est pas de ma faute, c'est de la faute des juges, c'est Carla qui me l'a dit. Donc je trouve ça quand même scandaleux, tout le mal qu'on fait.
Nicolas Sarkozy! Je l'ai!
Fini à trouver Nicolas Sarkozy.
Mais ah oui, c'est pas mal. Hein.
Mais c'est pas mal, attends. Moi, ça, oui, depuis, oui. Je suis mort de rire depuis une demi-heure, c'est j'adore ça, les imitations. Donc c'est Nicolas, ça. Vous en avez un autre?
Alors, j'ai été fait, mais j'ai Claude François, ça c'est ma spéciale. Ah. Donc, écoute, Pascal est près de toi. Il faut lui dire, Pascal, c'est quelqu'un pour toi.
C'est pas mal.
Mais c'est pas mal, le téléphone sonne.
Les auditeurs
pleurent, je veux dire.
Ouais, les auditeurs du talent, c'est ça que t'as dit, Greg?
J'ai dit les auditeurs pleurent, mais bon.
Oui, les auditeurs.
Oui, ils ont du talent.
Bon, bah écoutez, bravo Nicolas.
Allez.
Merci.
Vraiment, bravo. Il y a Eric également qui est là. Bonjour Eric.
Bonjour Pascal Pro.
Ah bah écoutez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en pleine forme.
Alors je suis en pleine forme, par contre je fais plusieurs imitations. Est-ce que vous voulez, avec une simple feuille de papier, le bruit du barrissement de l'éléphant?
Oui.
Alors attendez, je pose le téléphone, 2 secondes.
Le bruit du barrissement de l'éléphant, vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui?
Bien. Alors ça, c'est le bruit de la moto aussi, attendez, hein. Attendez, hein.
Bac 5 ans d'école de journalisme pour arriver à ça, franchement.
Mais attendez, voir, c'est pas fini. Vous voulez Albert Simon?
Ah, Albert Simon. Alors, vous savez imiter Albert Simon?
Ah, tout à fait, parce
qu'il était monsieur Météo sur une chaîne concurrente.
Écoutez Albert Simon. Le temps sera encore couvert sur la Bourgogne et la Franche-Comté. À RTL, le temps est un petit peu dégagé. Seulement, la perturbation qui était prévue va revenir et s'en aller.
Non mais Albert Simon, alors d'abord c'est pas mal, parce qu'Albert Simon il parlait un peu comme ça, c'est sur le ballon du Tour de France où il faudra
et
le
plus. Et attendez, il y avait aussi Garcimor. Garcimor.
Oui.
Regarde dans ta main, tu prends la première pièce à gauche et la deuxième à droite. Si j'ouvre les deux mains, où est-elle? Je m'en rappelle plus.
Bon, le problème, c'est que les gens que vous imitez, certains sont morts depuis longtemps et il est possible qu'on ne les reconnaisse même plus et qu'on ne les connaisse pas. Le public ne les connaît pas forcément. Mais vous avez également, vous avez Mitterrand, mais François Mitterrand?
Oui, eh bien, je vous garantis que je suis parti. Hein. J'habite pas loin de Solutré. Mais je ne voudrais pas revenir avec un bordel comme ça.
Ah, c'est pas mal, Mitterrand. Franchement, vous tenez la note.
Je vous signale aussi que je suis parti également. J'avais des problèmes de santé. Je me fais faire en ce moment la crise avec les vaccins. Une piqûre, à base de vinaigre. Savez-vous pourquoi?
Non.
Pour entretenir uniquement mon cornichon.
Bon, écoute un peu. Le texte
est... Regardez, et voici le bébé de chou pour y rire les socialos, les intellectuels coco, ce sont tous des rigolos.
Bon, effectivement, c'est assez daté quand même parce que c'est bébé de chou, mais Gabin, vous imitez Gabin?
Oh oui, parce que c'est eux, ça est parti aussi. Tant mieux. Gabin était là, c'était un grand acteur.
Bon, ben merci, Eric.
Dites-donc, ça commence à faire toutes ces conneries, hein. Ça commence à me gonfler. Alors là... Et qu'est-ce que vous voulez d'autre?
Non, c'est parfait. On va reterminer. Parce que vraiment, je dois dire que le barrissement là de l'éléphant avec la feuille de papier, je sais pas comment vous faites ça, mais je pense que ça, c'est on va se quitter là-dessus.
Ah bah alors là, par
courte et bon courage, hein.
Ouais, bon courage. On refait l'éléphant, là. Bah, j'ai bien aimé l'éléphant. L'éléphant. Il est là encore, Eric?
Je vous remercie.
Bon, merci, Eric. Je voulais l'éléphant, mais c'est terminé. Eric est reparti. Lucas, et puis ça sera peut-être le dernier auditeur sur les imitations, parce qu'on n'a pas parlé des jeux vidéo, et je vois qu'il y a Flavien qui nous attend sur les jeux vidéo. Mais Lucas va nous proposer de La Roche-sur-Yon, on est encore dans l'Ouest. Lucas, une petite imitation?
Bonjour, Pascal.
Bonjour, Lucas.
Bah, écoutez, je vais vous faire... je vais vous laisser deviner.
Allez-y. Allez-y, Lucas, on vous écoute.
Au loin de toi, je me demande pourquoi pas vivre ensemble pour une terre brûlée.
Je pense que c'est Dave.
Effectivement, Pascal Pro, c'est Dave. Et là, c'est qui?
Et là, je pense que c'est Johnny Hallyday.
Effectivement, c'est Johnny.
C'est pas mal, Johnny. C'est pas mal, Johnny. Moi, j'aime bien Johnny. Et vous imitez Nikos également?
Bonsoir, les loups, et bienvenue à l'événement spécial des Energy Music Awards, avec notamment les plus grands artistes français, Ayana Kamoulouche, Luc Flowly, et plein d'autres encore.
C'est bien, Nikos. Franchement, c'est bien. Bon, et alors, vous avez 24 ans, vous faites quoi dans la vraie vie, Lucas?
Je suis moniteur éducateur.
Bon,
et avec des personnes en situation de handicap.
Et vous faites des petits spectacles?
Non, pour les amis, pour le show américain, mais pas plus que ça.
C'est le show américain?
Oui, c'est ce que j'aime. J'aime le show dans la vie, c'est pour ça.
Bon bah écoutez, c'était sympa en plus, et puis c'était vraiment c'était agréable parce que vous l'avez fait dans le bon esprit. Merci beaucoup, Lucas.
Merci beaucoup.
Il est 14h16.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Une petite publicité, on parlera des jeux vidéo qui sont, très, très invasifs dans nos vies.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'était Lucas qui imitait Dave il y a une seconde. Alors on va terminer avec ce sujet sur les jeux vidéo. Et pourquoi nous en parlons des jeux vidéo? C'est parce que Brigitte Macron a pointé du doigt la mauvaise influence présumée des jeux vidéo sur le bien-être des adolescents. Fortnite, c'est terrible. Quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu'ils s'arrêtent? Des propos tenus le 3 février lors d'un déplacement à la maison des adolescents de Blois pour échanger avec la jeunesse. On est avec Flavien qui a 31 ans parce que les jeux vidéo, la moyenne d'âge, c'est pas forcément ado, c'est paraît-il 40 ans. Ce qui est des grands ados. Bonjour Flavien.
Bonjour Pascal, bonjour, je suis ravi de vous avoir au téléphone.
Ben non, moi aussi je suis ravi de vous avoir. Mais vous êtes un addict?
Alors, je ne suis pas un addict, j'ai été addict. Hein.
Oui.
Il y a une certaine période où ouais, j'ai pu être addict. Hein. Mais c'est vrai que je joue aux jeux vidéo depuis, on va dire, je suis la génération de 80-90.
Hein. Ouais.
Donc à cette époque-là, on avait tous les Nintendo, les Super NES, on a tous commencé comme ça. Et c'est vrai que j'ai continué sur les jeux vidéo jusqu'à aujourd'hui. Et donc, de cette passion, je suis rentré dans une association il y a quelques années, où donc on présente des jeux vidéo, on intervient beaucoup dans les foyers, certains foyers pour la jeunesse. On présente des jeux vidéo, des anciennes consoles, et de là, on a l'occasion beaucoup de parler avec les parents, avec les, principalement avec les parents. Et c'est vrai que le souci que j'ai, enfin, pour moi, c'est pas le souci, c'est pas les jeux vidéo eux-mêmes, c'est surtout l'éducation qu'ont les parents par rapport aux jeux vidéo.
Mais c'est combien d'heures par jour? Quand vous dites que vous étiez addict, par exemple, vous arriviez à jouer combien d'heures par jour?
Alors, c'était pas spécialement par jour, puisque je travaillais, et c'était surtout la nuit.
Oui. Surtout la nuit. Donc, combien d'heures par nuit?
Combien d'heures par nuit, disons après manger, ça peut être on va dire 22h à 3-4h du matin, peut-être.
Mais vous étiez en couple, là?
Alors justement, j'étais pas en couple.
Parce que moi, je vais vous dire, j'ai l'impression d'abord que c'est souvent masculin les jeux vidéo. Je sais pas si j'ai raison ou pas.
Ah, c'est en train de se démocratiser.
Bon, et moi, je connais un nombre de jeunes femmes qui me disent, mais je n'en peux plus, quoi. Mon mec, pardonnez-moi de parler comme ça, mon mec, il est devant ses jeux vidéo tout le week-end, il a 30 ou 35 ans, c'est un ado attardé, et il joue tout le week-end, et je ne sais pas si c'est Fortnite, je connais rien, moi, là-dedans, donc j'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie. Donc,
Il y en a après, voilà, il faut tout, hein. Il y en a qui passent leur temps sur des jeux vidéo, il y en a qui vont passer leur temps sur la voiture, il y en a qui vont passer leur temps sur autre chose.
Je suis d'accord avec vous, mais
c'est une passion comme une autre.
Bah, c'est une passion. Si t'es en couple, c'est compliqué pour la fille. C'est ça que c'est pas une passion. En week-end, tu aimes parfois aller, pourquoi pas, faire du sport. Tu peux aller au ciné, au musée, etc. D'habitude, hein, pas en ce moment. Donc, si t'es avec ton compagnon qui est 6 heures sur des jeux vidéo, tu dois devenir dingue. Parce que toi, ça te passionne, mais ton compagnon, il doit devenir fou.
Bah, c'est pas intéressant, évidemment. Mais c'est pour ça qu'il faut faire à part des choses aussi. Quand j'étais en couple, je passais pas mon temps devant les jeux vidéo. Oui. Mais encore une fois, je pense vraiment le problème, c'est la base. C'est la base. Si vous voulez, je vous parlais de mon expérience par rapport à l'association auquel je participe. J'ai eu l'occasion souvent de parler avec des mères de famille qui me disaient, oui, je trouve les jeux vidéo violents, tout le morlin. Je suis, après, c'est à vous de faire en sorte que votre fils n'y ait pas accès tout le temps. Dit, s'il passe beaucoup de temps dessus, il passe beaucoup de temps dessus, mais c'est à vous aussi de arriver à un moment, une certaine heure, vous prenez la manette. Le souci, c'est que les parents ne font pas la part des choses. Il y a des jeux vidéo qui sont, c'est exactement comme pour les films. Il y a des classifications. Il y a des jeux vidéo pour les enfants de 12 ans, de 16 ans, de 18 ans. Il y a des jeux vidéo pour tous les âges. Et le problème, c'est que beaucoup de parents ne font pas la part des choses là-dessus. C'est-à-dire qu'ils achètent des jeux vidéo parce que le petit copain, il a tel jeu vidéo. Le copain, ouais, il a acheté ça, donc moi, je le veux aussi. Et le problème, c'est que j'ai déjà vu, même assez récemment, des fois, on joue ce qu'on appelle en réseau. Si vous voyez, on est sur Internet. Donc, moi, maintenant, j'ai plus trop le temps d'y jouer, étant donné que je suis marié, papa. Donc,
et donc vous en faites quoi? Bah merci Flavien, merci de ce témoignage et merci beaucoup. Juste Mélanie, quelques secondes. Mélanie, vous jouez beaucoup?
Alors non, moi je joue pas du tout.
Ah, mais vous en avez marre justement de ceux qui jouent?
Marre de ceux qui jouent, non, moi c'est plus par rapport aux enfants et je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire votre auditeur.
Oui.
C'est-à-dire que moi j'ai un fils qui a 10 ans qui me réclame Fortnite depuis je pense environ 2 ans, vous rendez compte, 8 ans. Donc moi j'ai dit c'est niette, c'est même pas la peine de m'en parler, Fortnite ça ne rentrera pas à la maison. Mon fils il joue à FIFA. Déjà, alors FIFA, ça va parce que c'est du sport. Alors, je préfère quand il fait en vrai, mais bon. Mais déjà, quand je vois rien que FIFA, dans quel état ça le met. Parfois, quand je lui dis maintenant, Sacha, c'est fini, stop, on arrête. Ou ils deviennent fous, les enfants, quand
mais
on
oui,
leur,
ben oui,
on
c'était,
leur
c'est,
arrête.
C'est
leur
ce que disait Brigitte Macron.
Mais exactement. Et Fortnite, moi, je dis, c'est pas possible. Fortnite, c'est trop violent. C'est pas adapté aux enfants.
Alors Mélanie, merci. Tout le monde connaît pas Fortnite, mais visiblement, ça a l'air d'être quelque chose. Laurent Tessier, le débriefing, j'imagine que ça va être rigolo parce qu'il est 14h24 et on s'est bien amusé.
Ah oui.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Et un sujet essentiel aujourd'hui dans Les auditeurs ont la parole.
Ça vous gratouille ou ça vous chatouille?
Bon, quand même, Greg Caranoni, le vrai sujet qui vous a fait réagir au 3210.
Est-ce que vous êtes imitateur amateur?
Tiens, pourquoi Pascal Pro lance un appel aux imitateurs de France?
C'est la journée mondiale de la contrefaçon, et l'imitation est une contrefaçon. A tout de suite.
Ça, c'est original, la journée mondiale de la contrefaçon. Bon, de l'anti-contrefaçon, en fait. Mais attendez, j'ouvre mon agenda, nous sommes le 5 février.
Fake news.
Cette journée de l'anti-contrefaçon est en réalité le 10 juin. Le pire, c'est que vous insistez.
Nous célébrons cette journée de la contrefaçon.
Mais allez, soyons fous, un peu de légèreté, Yves s'est lancé.
Je me demande si tu existes encore. Je me demande si ton cœur est au nord. Le soir quand tu t'endors.
C'est que trop soir.
Laurent, une autre proposition?
Alors écoutez, monsieur Pro, excusez-moi, je sors de ça. J'ai un peu de la purée dans la bouche. Et je suis tout à fait honoré de pouvoir vous parler aujourd'hui, n'est-ce pas?
Bon, la maison n'est plus tenue. Pascal a aussi envie de chanter. Tiens, petite pause musicale. Reprenons nos imitations. Le meilleur nous vient d'Eric. Hommage aux animaux.
L'ébarrissement de l'éléphant.
Oui.
Bon, là, on vient de recevoir une plainte des voisins de Neuilly.
Dites donc, ça commence à faire toutes ces conneries, hein.
Eh oui, allez, vous l'avez demandé par mail sur les réseaux sociaux à la sortie de RTL, la semaine de Flavie et Pascal. Tiens, 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 c'est quoi le sujet du jour chez Flavie?
Selon vous, dans un couple, y a-t-il toujours un dominant et un dominé?
Ah, ça, c'est une bonne question. Qui peut bien être dominé entre Pascal et Flavie?
Merci, Pascal.
Merci, maîtresse Flavie.
Ça commence. Voilà, enfin, j'ai mis des mois à les faire comprendre comment il fallait s'adresser à moi.
Bon, nous sommes des journalistes sérieux, vérifions quand même avec un autre extrait.
Vous n'êtes pas encore grand-père, vous?
Non.
Ça ne serait tardé?
Je vous remercie. À demain.
Salut, papy.
Ouf, le salut, papy qui fait mal. Allez, le débrief. Pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte comme d'habitude avec la chanson qui ne fonctionne pas pour ses vacances scolaires.
C'est formidable. Bravo à vous, Laurent. Vraiment bravo, merci
bravo
Greg.
Bravo à tous les auditeurs pour leur invitation.
Bravo aux auditeurs, vous avez raison. Et Flavie Flamand, maîtresse Flavie, va arriver dans une seconde.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.